Les lettres persantes. Des lettres persanes 3 siècles après Montesquieu. De Michel Nécourou, avec son aimable autorisation. Publié aux éditions Catamaran. Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et trouver tous les obstacles que tu as construits contre l'amour. Jalal el-Din Rumi, dit Maulana, poète mystique perse et fondateur de l'ordre des derviches tourneurs. Chapitre 1er. Entre ombre et lumière, parmi les costumières. Alors qu'une feuille de son arbre s'est détachée, tombée, qu'elle paisiblement volait. Alors qu'au même moment, une plume aussi de son oiseau en plein vol s'est séparée, qu'elle a commencé sa descente, douce et élancée, sa descente et remontée, qu'elle aussi volait. Au même moment, un cheval noir franchissait les obstacles, les uns après les autres, alors que sur ses reins se dressait musicalement sa cavalière. Cette dernière l'orientait, elle l'accompagnait tout le long du parcours. L'harmonie entre l'homme et l'animal était irréprochable. En près de 9 mois, ils avaient parcouru un si long chemin ensemble. Un journal n'eut le temps de tomber de la poche d'un spectateur qu'un petit garçon le ramassa aussitôt. Plié sur une page centrale, un article y était entouré. Il s'était gravement blessé lors de la grande course de Belmont Stakes à New York. On le donnait bon pour l'abattoir, mais le prince monégasque le rachetait dans un ultime coup de cœur pour les 18 ans de sa fille. Cette dernière le confia d'abord à VSE, un des meilleurs centres hippiques d'Europe, puis elle s'envola jusqu'en Nevada pour aller convaincre Joe Dean, le chuchoteur des chevaux. « Je lui ai juste demandé de venir voir mon cheval », nous avait-elle déclaré. Ensuite, on n'a jamais compris comment, mais le vieux Dean accepta de quitter pour la première fois ses terres d'Amérique. Joe s'est même installé en Normandie pendant 6 semaines, pendant que le cheval Birdert a totalement recouvré. Un véritable miracle s'opérait. On a pu rapidement l'entraîner à nouveau. Ses progrès restent inconcevables pour tous les spécialistes. Et voilà qu'un nouveau cheval est né. Il gagne concours sur concours. Fini les courses de plat, il se paye désormais les concours de saut d'obstacles. Ce week-end, il tentera de gagner son 3e concours prestigieux d'affilée. S'il poursuit à ce rythme, nous le verrons certainement aux Jeux Olympiques l'année prochaine à Londres. Nous pourrons l'apprécier à... C'est mon journal ? Interrompait le vieux grincheux qui était revenu récupérer son journal, l'arrachant sans ménagement des mains du petit garçonnet. « Va-t-il gagner cette fois encore » entendait-on à tour de rôle les exclamations des journalistes de Canal+ et de l'équipe TV. Les juges, tout comme les spectateurs, ne pouvaient qu'admirer. Sa couleur noire argentée lui donnait un air de légende. Il défiait les obstacles sans vaciller, les uns après les autres. Tout était parfait. Restaient les 2 derniers obstacles. Les supporters des autres chevaux détournaient le regard, écœurés par la perfection du parcours auquel ils assistaient avec impuissance. L'avant-dernier obstacle franchi avec autant d'accord, au son de ses pas, chacun se jouait désormais sa musique préférée dans son cœur. Un rêve de quelques instants. Il cogna le dernier. Il ne l'a pas vu. Le public était debout comme pour acclamer. Mais le cheval se rattrapait de sa lourde chute, évitant toutefois autant que possible sa cavalière. Cette dernière restait inanimée, allongée à même le sol. Le cheval se débattait pendant qu'on tentait de l'attraper, le calmer. Quelques instants plus tôt, pourtant, tout semblait si parfait. Son regard s'était perdu à l'horizon l'espace d'une seconde, et sa cavalière n'avait pas su le rappeler à temps. Se rattraper au dernier moment. Ce n'est pas toujours facile. Au même moment. Madame, je ne pense pas. Moi, je pense surtout que ma fille souffre et que vous, vous n'en avez rien à faire. J'ai mis au monde 4 enfants. J'ai souffert aussi. Toutes les femmes souffrent en accouchant, vous le savez autant que moi. » Se disputaient au tac au tac deux vieilles dames au milieu d'un chaos indescriptible, alors qu'une infirmière suivie de deux pompiers tentait de passer. « Attention, mesdames, ne restez pas là, s'il vous plaît !» Pompiers, ambulances, infirmières et sages-femmes. Oh, sages-femmes, trottez en toutes directions, brancards poussant. Le service de maternité de l'hôpital Taj de Téhéran était plus que débordé, comme d'habitude. « Attention, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, installez-la dans la salle de travail, là-bas, la numéro 5, j'appelle la sage-femme. » Sur les brancards, femmes enceintes, souffrantes ou assoupies, avant ou après l'accouchement, se tenaient toutes leurs ventres. Les regards plus ou moins dans le vague, elles affichaient toutes la même expression, impossible de distinguer si elles étaient heureuses ou malheureuses. Au même moment, une forme noirâtre dans l'axe de la fenêtre, en plein milieu des rayons de soleil, puis en se frottant les yeux, se distinguait un gorille énorme était-il. Du haut de ses 90 kilos, la bête fixait le vieux Georges, les yeux dans les yeux. Le regard vif et profond, la bête terroriserait n'importe qui. Depuis quelques jours déjà, le vieil homme ne se trouvait plus la force de sortir de sa couche. Faible et fiévreux, il se sentait de plus en plus précaire. Son heure était-elle arrivée à double titre ? L'épuisement de la vieillesse était déjà là. Le gorille s'avança. Sa vision se brouilla. Dans tout le service, cris et pleurs se mélangeaient curieusement à une ambiance au demeurant heureuse. Une salle faisait l'exception. Celle qui portait le numéro 8 en sa devanture. Là où se querellaient les deux vieilles depuis plusieurs heures au grand désespoir de tout le service. Celle dans laquelle j'allais naître. Et elle, c'était mes grands-mères. Et la salle, c'était une... salle de travail ? S'exclamait un bambin pendant que son père tentait de lui expliquer. « Oui, l'appelle-t-on ainsi, semble-t-il » pensait un des participants à la scène. « Et pourquoi s'appelle-t-elle ainsi, au juste ?»« Parce que naître serait notre premier travail. »« Premier travail qu'on n'a pas vraiment choisi. »« Qu'on fait plutôt à contre-cœur. »« Et, en tout cas, parce qu'il le faut bien. »« Parce qu'on se fait rouler dès le début. » Encore d'autres pensées sans toujours rien dire. Un premier travail, mais déjà abondant de peines, de terribles douleurs, de larmes, de sueurs, de cris. Un travail comme on en connaîtra rarement d'autres, comme pour prévenir de tout ce qui nous attend dans notre nouvelle vie. Le bambin restait dubitatif pendant que son père s'exaspérait. Prélude. Vous me direz, ce n'est pas très joyeux comme début, comme récit de ce quelque chose de si magique, si heureuse, si mystérieuse et si belle dans la vie qu'est la naissance d'un enfant. Et je ne vous contredirai point. Simplement, je ne fais que retracer ici ma vision du nouveau-né, celle que chacun d'entre nous a eue au commencement, mais qu'on a ensuite oubliée, délaissée, manquée. Allez savoir. Cette vision où l'on voit ces miettes de vérité, ces miettes que chacun d'entre nous tente aujourd'hui de chercher dans ses oublis, dans son inconscient, dans ses séances psy, dans ses pensées profondes, dans ses lettres perçantes. Ces miettes faites de mariages, de paradoxes, continues entre le bien et le mal, le blanc et le noir, le beau et le moche, de toute notre vie. De toutes nos vies. N'est-ce pas bien Montesquieu qui, dans ses lettres persanes, avait déjà concédé « Il faut pleurer les hommes à leur naissance et non à leur mort. » Mais quel crime avons-nous fait pour mériter de naître ? Alphonse de Lamartine. Mes grands-mères grondaient toujours en ce couloir du bonheur. Mais qu'en était la raison ? Eh bien, je n'en sais rien. Mais si, attendez, j'ai une idée, un préjugé, puisqu'on m'a raconté. Moi, j'étais alors encore dans un autre monde. Oui, on m'a raconté qu'elle se disputait car je n'arrivais pas à sortir, que je n'arrivais pas à naître, à entrer dans ce monde, à quitter l'autre. Que ma jeune mère s'entordait d'horribles douleurs, que d'insoutenables tourments aussi fréquents et aussi profonds que les vagues d'un océan en tempête lui décapitaient impitoyablement le souffle. Que de telles souffrances, paraît-il, les hommes n'en supporteraient pas même l'imagination. Madame, est-ce que vous comprenez? Il faut procéder par la césarienne, tout de suite, sinon on va la perdre. On va la perdre! Le chef de service appelé à la rescousse ne cessait de le répéter à chacun de ses passages. Ma mère, tout comme moi, se trouvait à cette intersection entre deux mondes. Tout comme le pape Jean VIII ou la papesse Jeanne, coupable d'être une femme. Un pape femme? Allait-elle aussi être lapidée, oubliée, reniée? Les bruits et cris se mélangeaient inlassablement. Que mon père aurait alors, tout de même et heureusement, lâché au médecin. Sauver la mère s'il faut choisir. Oui, mon père, lui qui devait payer la facture de l'hôpital, il travaillait dur pendant ce temps. Il y a effectivement de ceux en ce monde qui doivent payer les factures des hôpitaux de leurs proches. Associé à son père, dans une petite usine familiale de textiles, il partageait frais et revenus. T'as vu combien ça coûte la césarienne? C'est totalement absurde. Non mais ça va pas. Elle peut très bien accoucher à la naturelle comme tout le monde. Il n'est pas question qu'on paye de tels prix pour le confort de madame, aurait-on dit dans le dos de mon père. On m'a aussi rapporté une autre vision des choses, celle avancée par ma famille paternelle. Toutes les femmes accouchent ainsi depuis la nuit des temps. Elles n'avaient pas besoin de césarienne. Rien ne vaut la naissance naturelle. Il faut laisser faire le bon Dieu. On désire une naissance naturelle, docteur. Évidemment, personne ne se juge coupable à haute voix, et chacun, en bon avocat, a ses raisons et ses versions. Mais qui au juste devait désirer? Déjà ne devais-je apprendre que le désir peut-il se mêler à la douleur, voire avec la mort? Pire, le désir de ma famille paternelle pouvait se mêler avec la douleur, voire avec la mort de ma mère, et le tout pour une question d'argent. En tout cas, moi je n'étais pour rien dans ces problèmes pécuniers, et de toute évidence, ma mère non plus. Aussi, on y était pour quelque chose. C'était pour nous, mais malgré nous. Et pourtant, personne ne nous demandait notre avis, puisque notre avis ne comptait guère dans le jugement qui allait être rendu. Déjà, ne devais-je apprendre qu'entre l'homme et l'argent, c'est l'argent qui a le premier et le dernier mot? Que l'argent, la générosité et l'avarice, ce n'est pas la même équation que ce soit pour un riche ou pour un pauvre? Elle sortait du cœur de la montagne, c'était la sortie du tunnel. Puis s'éteignait dans un eau, débusquant entre-temps les aigles noirs de leurs nids hauts et profonds. L'ambulance, sirènes hurlant, déambulait les périlleuses pentes alpines, grimpait et puis dévalait aussitôt les sinueuses routes de la côte, défiant d'une roue les murs rocheux, de l'autre les précipices tranchants, le tout blanc et froid comme la neige, tentant de sauver la jeune cavalière, la conduire au service des urgences le plus proche. Tony, chauffeur ambulancier depuis 12 ans, ne cligna pas d'un œil à l'éclair d'un radar nouvellement installé. Pourtant, il venait de griller son dernier point et savait que lui et sa famille ne pèseraient pas lourd au tribunal, celui auquel il allait être automatiquement convoqué. La vie de l'inconnu qu'il transportait ne se monnayait aucun calcul de ce monde, et rien d'autre ne comptait pour lui en ces instants. Elle serrait la main de la jeune femme blessée dans la sienne. Émilie, infirmière ambulancière, ne s'habituerait jamais à son travail. Elle pleurait toutes les nuits, non pas de ses propres malheurs, mais des drames auxquels elle avait dû assister toute la journée passée. De l'effroyable état des patients, accidentés et autres malades, ceux qui lui passaient entre les mains. De ceux sans bras, sans jambes, sans peau, sans mémoire, sans œil, sans cœur. Plus que 80 kilomètres, Émilie !» hurlait Tony, tourbillonnant au volant de son ambulance, au même rythme que la route. Son cœur ralentit de minute en minute. « Il faut pas qu'elle nous claque entre les doigts !» s'écriait la jeune infirmière en réponse, suppliant du regard la jeune accidentée de se battre, de rester vivante. Prélude. Dès ma naissance, dois-je dire avant même ma naissance, n'étais-je pas fictivement confrontée au premier paradoxe de la modernité, celui de l'argent, celui qui n'avait pas perdu de temps pour venir à ma rencontre? Oh, l'argent! Les pensées s'agitaient encore dans tout le service. L'argent! Oh, tu nous tiens! Pourtant, paraît-il, au début, il y a des milliers d'années, les humains devinrent sociaux. Eurent-ils alors rêvé de partager, troquer, donner et prendre? C'est là qu'ils créèrent l'argent, la monnaie. Ils le créèrent pour vivre, plutôt pour mieux vivre, pouvoir acheter, vendre, posséder. L'argent n'était qu'un moyen, qu'un outil. Mais que s'est-il alors passé? Ont-ils trop rêvé ou pas assez? Peu à peu, les choses leur ont échappé. Sans s'en rendre compte, de tous leurs biens, l'argent les a dépossédés. Au point que sans argent, l'homme n'est plus rien. Rien. De l'argent pour vivre, ils sont passés à vivre pour l'argent. Sans argent, l'on n'existe même plus dans la société. Sans argent, l'homme ne vaut rien. Et pourtant, que vaut l'argent sans l'homme? L'argent ne serait-il pas effectivement qu'une fiction? L'argent a inversé le cours de l'histoire. C'est finalement l'homme qui est devenu l'outil. L'homme tuerait pour l'argent. On échange même les humains pour l'argent. L'homme se vendrait pour l'argent. Et on échange l'homme avec l'argent. Valeur physique, l'argent ne devint-il pas valeur morale? L'homme créa l'argent pour devenir puissant, mais l'argent l'a dépossédé. L'argent l'a dépossédé de tous ses pouvoirs, au point que l'homme devint esclave. Le paradoxe est invraisemblable. Si vous saviez, j'ai appris que le terme monnaie vient du latin monere, qui signifie avertir. L'argent, en avions-nous rêvé? Pourtant, nous étions avertis. Mais avons tout oublié en chemin, jusque tout perdre? L'argent ne représente qu'une nouvelle forme d'esclavage impersonnel à la place de l'ancien esclavage personnel. Tolstoï. Dans mon monde, mon premier compagnon, c'était un cœur. Puis un autre. Dans ce monde, devenu à présent si étroit, j'entendais aussi des voix. C'étaient les voix de mon cœur, puis des autres. J'en entendais même d'autres, bien d'autres. On dit souvent que l'enfant sent tout, avais-je entendu une fois. Il entend tout. C'est plus que juste. Il entend même les cœurs. Il entend surtout les cœurs. Mais aujourd'hui, la douleur, les crises et les bruits s'étaient entremêlés. Ils étaient d'un bien autre niveau que ceux que j'avais pour l'habitude d'entendre. C'était en un mot horrible. C'était la guerre. J'avais beau réfléchir, mais je n'en voyais pas la raison. Et il y avait tout de même une seule chose positive dans toute cette horreur. C'était la lumière, celle que je n'avais encore jamais vue. Elle venait d'apparaître depuis peu. Elle m'éblouissait, et je ne sais comment ni pourquoi, mais quelque chose m'y attirait, malgré moi. Qu'est-ce qui t'amène dans ces contrées mystérieuses? Je reconnus instantanément cette voix. Elle avait tant résonné en moi. C'était celle de la petite fée. Elle m'apparaissait à nouveau, sortie comme par magie des ténèbres et du froid, de ce désespoir dans lequel je me trouvais. Je la connaissais déjà. Elle était la seule qui avait une voix presque aussi douce, aussi magique et merveilleuse que celle qui faisait résonner tout mon monde, celle qui me réveillait, qui m'excitait mais qui me glaçait dans le même temps. Oui, celle qui me saisissait tout entière, qui émouvait chaque particule de mon corps. Je parle de la voix de Dieu. Mon Dieu, croyais-je. Mon Dieu dans ce monde. Celle sans qui je me serais sentie si seule, présente partout et visible nulle part. Gustave Flaubert. Qu'est-ce qui t'amène dans ces contrées mystérieuses, mon petit ? Me voyant si absente, égarée entre mon cœur et mes pensées, la fée devait s'y reprendre. J'étais aussi préoccupée que serrée, exténuée, presque anéantie, plongée dans mes derniers songes, quoi de plus naturel en ces instants extrêmes, je les regardais avec peine. « Je ne sais pas, lui ai-je répondu laborieusement, je ne sais pas ce qui se passe. L'eau, tout l'océan de mon monde, a coulé d'un coup vers je ne sais où. » J'ai tenté non sans mal de lui montrer en faisant signe des yeux. Elle a suivi mon regard pendant que je continuais à lui raconter. Ce flamboyant soleil a commencé à apparaître après que l'océan s'est vidé dedans. Et alors que je lui montrais des yeux la lumière et le point d'où elle prenait naissance, j'ai continué avec autant de tourments. « Tu vois bien, tout a presque séché, il n'y a plus rien autour de moi. À présent, je suis si serrée. Je vais mourir, je pense. Je le sens. » Puis j'ai poursuivi. « Il y a quelque chose de froid, très froid, glacial, qui a commencé à souffler, sur ma tête. Cela souffle de plus en plus. C'est horrible, petite et jolie fée, l'ai-je regardée. » Sa vue si magique donnait un peu de gaieté et de chaleur à mon cœur. Elle me tenait souvent compagnie en ce monde. « Je pense que c'est la fin pour moi, devais-je reconnaître. Je vais mourir. Le monde est devenu trop étroit pour moi. J'étouffe, je suis terrorisée, j'ai froid, je suis gelée, me répétais-je viscéralement dans mes tourments, quand soudain je me suis tournée vers elle. « T'es venue me sauver ?» Un mince espoir me réchauffa, mais presque aussitôt, sceptique, je refermais les yeux et je soupirais. « C'est ça ?» La petite fée, en pleine forme comme d'habitude, frétillait d'un point à l'autre je ne sais comment. Épuisée et démoralisée, j'avais plus de mal à la suivre du regard qu'à mon habitude. Elle souriait, elle rayonnait comme toujours. Sa grande joie contrastait à l'infini avec mon état déprimant et funeste. Elle m'a enfin lancé. « Alors, tu rêves, mon bébé ?» Et elle poursuivit. « Il faut se réveiller. Il faut que tu t'actives. C'est un grand jour. Tu vas enfin rencontrer ton Dieu, ce Dieu qui t'accueillera à la porte. » Elle a hésité un instant. « Du paradis ?» Elle a réfléchi encore, puis elle a poursuivi. « Ce paradis qui t'attend, ne sois pas inquiète. Tu vas mourir de ce monde, certes, mais ce n'est que pour naître dans un nouveau. Le nouveau monde, celui dans lequel tu vas naître, est bien plus grand, bien plus beau, bien plus merveilleux. Tu verras. C'est un monde où tout est si nouveau et si beau que tu n'auras jamais le temps de tout découvrir. Un monde où tu verras tout ce que tu ne peux même imaginer ici. Tu ne vas mourir que pour mieux naître. » Plus radieuse que jamais dans sa robe blanche et rouge clinquante, elle dansait et chantait. « Aide-toi, aide-toi. Ne laisse le baiser de la mort sur tes lèvres venir s'étendre. Ne laisse le désespoir et le deuil venir te prétendre. Tu es, et à jamais tu resteras, cet amoureux qui cherche la lumière. Aide-toi, aide-toi. Je ne peux que faire l'infirmière. Ne te laisse avec tes espoirs chanceler. Tu n'es qu'à la source. Il te reste à voir la mer. » Son histoire m'intéressait de plus en plus. Tout intriguée par ce nouveau monde qu'elle m'énonçait, je réfléchissais à ces mots. « Mourir que pour mieux naître. » Au bout de quelques instants, d'un coup, j'ai commencé à m'emballer. J'ai senti bouger de tout mon corps. Péniblement, mais profondément, je bougeais à nouveau. J'ai senti jusque mon sang se réchauffer, mon cœur reprendre force. Je l'ai interrogé. C'est comment ce nouveau monde ? Et j'ai continué dans ma lancée. C'est quoi cette histoire ? C'est vrai ? Tu ne me racontes pas des histoires. Je suis épuisée, tu sais. Ce n'est pas drôle. Je ne suis vraiment pas en état de plaisanter. Tout en réfléchissant, tout en lui posant ces questions, l'impatience me regagnait. J'étais de plus en plus sceptique. À mesure qu'elle tardait à me répondre, je commençais à ressentir le froid. « Allez, lève-toi, feignante. Tu dois sortir, je t'ai dit. Ce que tu ressens comme étant froid, c'est le passage vers l'autre monde. C'est le jour, c'est la lumière, c'est ton Dieu qui t'attend à la sortie. Tout bonheur passe par le calvaire. Tu ne tromperas point ton cœur. » Puis elle a pointé son doigt. « Regarde, c'est par là, où il y a la lumière. Tu dois aller vers la lumière, vers où ton cœur te guidera. » J'ai rouvert mes yeux aussi grands que je le pouvais. Je ne les avais jamais ouverts aussi grands. Quelques heures auparavant, j'étais encore plongé dans le liquide. C'était mon océan. Et, plongé dans cet océan, l'océan de mon monde, je ne pouvais pas voir grand-chose. Tout était vague et flou. Et à présent, j'étais tellement serré contre les parois de mon monde que je ne pouvais plus rien voir, ou presque. Et ce, alors que la petite fée, elle, avait toujours l'air d'être plus loin que l'espace qui m'entourait. Je ne comprenais pas comment, mais quand je la voyais, j'avais l'impression qu'elle n'existait pas vraiment, qu'elle n'était pas là. C'était comme si elle était là et pas là en même temps. J'ai pensé. Et Dieu, alors ? Où est-il ? Où va la lumière ? Mais où va-t-elle, cette lumière ? Les pensées se mélangeaient déjà dans ma petite tête. « Alors, allez, c'est l'heure. Bouge, bouge-toi, lève-toi. Ne laisse pas la tristesse t'assoupir avant que la terre te prenne dans son sein. Il faut que tu sortes. Ton Dieu est là, tu sais. Celle dont la voix te fait trembler de bonheur. Celle dont la voix fait trembler ce monde tout entier, tu sais. » Et elle s'est mise à chanter encore et encore. « Viens faire la fête avec moi, lève les bras et danse avec moi. » Je lui ai répondu, « As-tu perdu la tête ? Ou n'en as-tu jamais eu ?» me demandai-je pendant qu'elle continuait inlassablement. « Allez, tu ne vas pas rater cette occasion magique tout de même, depuis que tu es en rêve. Je t'ai dit qu'il y a un autre monde qui t'attend. C'est le paradis. Ce petit monde est fini pour toi. Tu dois t'en aller. Allez !» J'ai bougé encore, puis je l'ai regardée, incrédule. « Mais que faut-il que je fasse ? Que veux-tu que je fasse ?»« Tu dois pousser avec tes pieds, » m'a-t-elle répondu, « de toutes tes forces, pour passer à travers l'alvéole qui s'est ouverte au-dessus de ta tête. Pousse vers la lumière. Tu dois pousser. Allez, allez !»« Mais il fait froid. Je sens un froid qui vient de là. » »« Ne t'inquiète pas. Allez !» « Pousse, on y va !» Et alors j'ai commencé à pousser, doucement d'abord, puis de plus en plus. J'avais effectivement cette impression que mon corps se réchauffait en même temps que je poussais, et que cet alvéole, au-dessus de ma tête, grandissait comme pour m'accueillir. Je poussais de plus en plus fort. C'était tellement épuisant. C'en était horrible. « Allez, allez, encore un peu !» m'encourageait-elle inlassablement, sans quoi je n'y serais jamais arrivée. Je sentais ma tête sortir. « Oh !» lui lançai-je. « Il fait si froid là-dehors !»« Ne t'inquiète pas. Allez, pousse, fais-moi confiance. Tu y es presque. Allez, mon petit ange !» Alors j'ai poussé encore et encore sous les exhortations de la petite fée, et encore... Bientôt ma tête allait-elle sortir complètement ? Oui, ma tête, elle naissait en premier, dans ce nouveau monde. En même temps, j'avais cette étonnante impression de me libérer autant que de m'étouffer. Ne me demandez pas comment. « ça y est !» hurlai-je. « Je suis gelée. Oh là là, je n'en peux plus. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est quoi? Il y a quelque chose? Je n'arrive pas à expliquer ce qui m'arrive. J'étouffe? Je respire? Qu'est-ce que c'est? C'est horrible! C'est horrible! Je vais mourir! Oh, oh, oh. La fée m'est réapparue. Elle criait pour m'expliquer rapidement. C'est nouveau pour toi, mon petit. Calme-toi, ça va bien se passer. C'est l'air qui envahit tes poumons. Tu as l'impression que c'est horrible au début. Tu as l'impression d'étouffer. Mais tu es en fait en train d'inspirer ta première bouffée d'air. Ta première bouffée d'air de ce monde. Je ne comprenais absolument rien à ces explications. Je sais juste que le fait qu'elle me demande de me calmer m'a aidée. C'est alors que je suis née. Il était minuit ou presque, d'après ce que j'en sais, ou d'après ce qu'on m'a dit.